bon pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est Grégor. Chaque semaine, sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste.
À l'initiative du président de la République, une consultation auprès de concepteurs internationaux est lancée. Dénommé Quartier de demain, ce laboratoire de prospective et d'expérimentation vise à mobiliser l'excellence architecturale, urbaine et paysagère pour construire le futur des quartiers populaires au XXIe siècle. Pluridisciplinaire, la consultation est un accélérateur inédit vers un nouvel art de bâtir au service de la qualité de vie des habitants et habitantes. Réponse au président sur ces 10 quartiers de demain par Stop Démolition. Monsieur le Président, ce ne sont pas seulement les 10 quartiers de demain dont il s'agit, mais de plusieurs centaines de quartiers de notre pays laissés à l'abandon. Ils méritent tous que les professionnels de la ville, architectes, urbanistes, paysagistes, soient mobilisés avec les habitants et habitantes par des concours d'architecture, de paysage et d'urbanisme pour leur amélioration, leur entretien, leur rénovation et, comme vous le dites, en valorisant l'existant et en arrêtant la démolition systématique. Le 13 juin 2025, au siège de la Société française des architectes à Paris, se tenait une conférence de presse intitulée « Et les quartiers d'aujourd'hui ?» En réaction à cette initiative de l'État et avec différents intervenantes et intervenants, collectifs nationaux et locaux, architectes, urbanistes, pour discuter des sujets du logement et de l'habitat. À la suite de la présentation du programme Quartier de demain, le collectif Stop Démolition, qui organisait cette conférence de presse, a écrit une lettre ouverte au président de la République. Et nous entendrons dans cette heure d'émission différentes interventions qui ont rythmé cette conférence de presse. Bonne écoute.
Je vais introduire comment le collectif Stop Démolition s'est constitué. Il s'est constitué à peu près en février 2023 lors d'une manifestation au siège dans la rue et qui il a eu la vertu de réunir en fait l'ensemble, jusqu'à aujourd'hui 90 collectifs locaux qui sont à travers toute la France, qui luttent localement chacun pour résister contre la démolition de leurs biens et de leur lieu de vie notamment, et aussi sont arrivés les organismes locataires et les professionnels de la ville. Aujourd'hui, on a plus de 1000 signataires de l'appel initial. Et ça nous a permis, notamment durant toute l'année de 2024, de commencer à nous organiser pour aller dans les instances importantes pour que cette question, elle soit pas que des luttes locales, mais qu'elle soit, on ait la force de ce collectif pour aborder les différents espaces de décision. Et notamment, aujourd'hui, on s'attelle à celui le plus haut, puisqu'il nous a tendu la main à travers le lancement de ce sujet des 10 quartiers de demain. C'est pour ça que nous, on est là d'une certaine manière aujourd'hui, puisque notre volonté est de faire cesser, dans les plus brefs délais, la démolition des immeubles en cours. Et donc, je vais introduire les différents collectifs qui sont parmi nous aujourd'hui, qui ont réussi à venir jusqu'à Paris ou alors qui sont à distance grâce à Zoom. Aujourd'hui, on a la Butte Rouge à Châtenay-Malabry, la Maladrerie à Aubervilliers, Almagar à Roubaix, Le Saule à Orly, Étouvie à Amiens, à Valenton la Lutèce, à Toulouse le Mirail, à Évreux la Madeleine, à Nîmes Pisevin Val-de-Gour, à Besançon la Planoise. Voilà. Donc on a aujourd'hui là, on a un petit panel des collectifs locaux qui se mobilisent très fortement, avec pour certains des avancées et pour d'autres des catastrophes en cours. Parmi les organismes locataires et qui vont intervenir, alors vous avez tous ces organismes sont présents sur la scène. Parmi les organismes locataires, il y a le droit au logement, il y a la CNL, il y a l'appui qui est alternatif pour des projets urbains ici et à l'international, et il y a le collectif Passe en nous qui sont des organismes qui assistent les locataires localement, et notamment qui sont consignés l'appel, qui luttent avec nous pour faire cesser les démolitions des quartiers. Ensuite, dans les professionnels de la ville, on a été rejoints par de nombreux, mais tout le monde n'est pas là. Et, voilà. Il y a la SFU, la Société française d'urbanisme, la Défense profession architecte, la frugalité heureuse et créative, qui est représentée par Philippe Madec, une architecte enseignante qui va intervenir tout à l'heure à distance, qui fait tout un travail avec nous sur tous les quartiers. Dokomomo, l'association qui s'occupe du patrimoine moderne. Le syndicat de l'architecture. House Europe, qui n'a pas pu venir, mais qui est, je dirais, le prolongement européen de ce que nous avions initié ici en France avec Stop Démolition. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur Internet pour signer l'appel européen qui a besoin de signatures pour pouvoir que ça soit une question qui soit à l'objet de l'Assemblée européenne. Christophe Hutin, voilà pour la présentation des personnes. Alors, rapidement, la phrase qui nous a d'une certaine manière engagés à faire ce courrier, c'est que le président de la République a rejoint en fait notre combat en disant d'abord valoriser l'existant et arrêter la démolition systématique, intégrer la transition écologique. Dans cette phrase, nous, on est parfaitement d'accord. Après, sur le mode opératoire pour le faire, 10 quartiers pour nous, c'est purement insuffisant. Pour les quartiers prioritaires de la ville, au sens entendu, il en reste 1532 à traiter. Et donc, ça veut dire de l'ordre de 5,3 millions d'habitants qui, dans cette histoire, ne font pas l'objet d'un réel investissement. Donc ça, c'est la première chose. Pour nous, c'est très important de cesser de dilapider le capital social qu'on a aujourd'hui. On va vous expliquer pourquoi. Et du coup, nous demandons, avec notre lettre ouverte au président de la République, l'arrêt immédiat des démolitions en cours et programmées, la réalisation du concours de maîtrise d'œuvre avec la participation des habitants. Ça, c'est une façon de faire la ville qui devrait revenir, c'est-à-dire que ce soit quelque chose de collégial et pas quelque chose de fermé à quelques équipes ou à presque peu d'équipes, c'est-à-dire où il n'y a pas de concurrence et il n'y a pas de logique. Voilà. Dans notre lettre, on écrit que l'architecture ne peut être limitée à des opérations de vitrine, elle mérite d'être mise au service de tous, en mobilisant tous les architectes, les urbanistes et paysagistes pour travailler avec les principaux concernés, les usagers de ces quartiers. Pourquoi on dit ça? Parce que, grosso modo, on va rappeler pourquoi nous, on est foncièrement contre les démolitions. Parce que, tout d'abord, il y a une crise sociale aiguë. Les logements existants ont des loyers qui sont de l'ordre de 3 à 5 euros du mètre carré. Et c'est ce qui correspond à la demande de logements sociaux aujourd'hui. Alors que ce qui est construit à la place, la plupart du temps, de ces démolitions, c'est des loyers 2 à 7 fois plus chers qui ne permettent pas, notamment à ceux qui en ont plus besoin, d'accéder au logement. La deuxième raison, c'est qu'il y a véritablement beaucoup de fausses concertations et des logements qui fragilisent le corps social, c'est-à-dire que les gens sont pris dans des mécanismes de production de la ville où, d'une part, ils sont rarement intéressés et rarement impliqués et par les services qui instruisent des dossiers ou qui les établissent. Ensuite, une des raisons aussi les plus criantes, c'est que nous sommes dans une crise aiguë du logement et qu'aujourd'hui, elle est extrême, puisqu'on voit réapparaître dans l'espace public, je pense que tout le monde a pu être sensible là-dessus, mais des bidonvilles. Et donc, on considère qu'avec 4,2 millions de personnes mal logées, c'est-à-dire avec plus de 40 ans de régression sur ce fait-là, il faut cesser de faire des subsides avec seulement 10 quartiers. Il faut commencer à investir sérieusement la question pour répondre aux besoins. Voilà. Donc aujourd'hui, on est quand même, pour rappel, à 4,2 millions de personnes mal logées, 350 000 personnes à la rue, 3 000 enfants, et d'année en année, ça s'aggrave. En 2024, juste pour un petit chiffre, ça c'est des chiffres qui ont été amenés grâce à ODA, là, seulement 21 000 logements sociaux PLAI, PLUS, c'est-à-dire c'est ceux qui sont les plus nécessaires à ceux qui ont encore plus de mal à l'accès au logement social, ont été créés. Parce qu'en fait, 48 000 seulement ont été produits et 27 000 ont été détruits. À ce rythme, il faudrait près de 90 ans pour fournir un logement aux 1 900 000 demandeurs de logement. Donc ça, c'est une vraie crise sociale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le manque structurel de création de logements et la démolition aggrave la possibilité à tous d'offrir un logement décent. Ensuite, c'est une crise écologique, puisqu'il faut savoir que toutes ces constructions qui ont été faites au XXe siècle ont contribué au réchauffement climatique, puisqu'elles sont l'énergie grise de la température que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à plus de 12 degrés au-dessus des normales. L'avenir semble tout à fait dans cet environnement-là. Et donc, une démolition en reconstruction, les chiffres de l'ADEME révèlent que c'est jusqu'à 9 fois plus de gaz à effet de serre émis qu'une opération sérieuse de réhabilitation et de restructuration potentielle des logements. Donc, en soi, c'est une absurdité environnementale de se lancer dans ce type d'opération et de ne pas être circonspect dans la conservation de ces immeubles. Les dépenses engagées, c'est de la même façon, ne vont pas vers ce qui serait absolument nécessaire, c'est-à-dire urgemment les 30% des bâtiments qui émettent des gaz à effet de serre dans le total des gaz à effet de serre sont liés aux consommations et sont liés aux difficultés qu'on a à mettre en œuvre la réparation climatique des bâtiments. Voilà. Et notamment aussi, ça nous obère aussi la possibilité de supprimer, de faire en sorte de travailler sur ces logements qui vont devenir de plus en plus difficile à vivre, puisqu'ils datent des années 70. Ils étaient avant les premières réglementations thermiques. Et donc, aujourd'hui, en été, c'est souvent des fours. Le dernier point, c'est la crise financière. Savoir qu'une opération de démolition reconstruction, à minima, en général, c'est 2,5 fois le prix d'une opération de rénovation sérieuse. Xavier vous parlera peut-être, mais eux, ils ont fait des calculs. Ils sont plutôt à 4 fois le prix que d'une opération normale. Le dernier point, c'est que nous, on considère que tous ces quartiers, ils ont leur qualité. Ils ont été fondés, c'est une œuvre, certainement l'une des plus belles œuvres françaises du XXe siècle. Ils ont été fondés à la seconde moitié du XXe siècle. Ils ont été fondés avec des principes et des caractéristiques extrêmement généreuses. On n'a pas malheureusement su les entretenir sur la durée, parce que là, structurellement aussi, c'est un sujet que nous défendons. C'est-à-dire qu'il faudrait, avant de considérer que la chose est morte, il faudrait d'abord l'entretenir et savamment et y mettre les moyens, l'entretenir et la maintenir de façon constante et pas laisser les gens dans des situations souvent où on se demande pourquoi ils payent un loyer. Voilà. Et donc, il y a une vraie ambition, je pense, parmi les acteurs de la ville, notamment les architectes dont je fais partie, de revaloriser ces quartiers-là et d'en faire quelque chose pour l'avenir qui soit, pour une fois, égal pour tout le monde et qui permette de restituer tout ce qui manque depuis quelques décennies sur ce que l'on aurait dû faire sur ces quartiers. Je vous remercie. Alors, comme on a peu de presse, on va se donner la parole successivement. Voilà. Alors, Michel Redby, qui est architecte, et il est presque à l'initiative. C'est lui qui défend à Toulouse le Mirail les bâtiments de Candilis Josicoud.
Tu as pratiquement tout dit. Je voulais juste dire une chose. Il y a deux jours, se sont tenues des rencontres de l'ANRU. Et à l'occasion des rencontres de l'ANRU, ils ont porté la réflexion sur l'avenir de cette politique de l'ANRU. Et je voudrais dire deux choses. Le président Vergriette de l'ANRU s'est exprimé en disant qu'il s'agissait de défendre une politique de la ville concrète pour changer le visage des anciens grands ensembles. C'est totalement notre point de vue aussi, bien évidemment. Et il concluait son discours et son propos en disant « C'est très important pour les habitants des quartiers. Pour le modèle français de ville durable, il y a des millions de Français concernés qui ne vivent pas dignement, qui sont en situation de précarité énergétique, qui connaissent une stigmatisation à cause de leur adresse. » Alors, toutes ces questions-là, bien évidemment, nous les partageons. Mais ce que nous voulons discuter, c'est la manière, aujourd'hui, de travailler sur ces quartiers pour faire en sorte que ces quartiers, effectivement, permettent de vivre dignement, d'être logés dignement, de retrouver des conditions normales de fonctionnement pour que tout le monde puisse bénéficier de ce qui, pour nous, en tant qu'architectes, est très important, des savoirs de l'architecture et de l'urbanisme, pour répondre à ces besoins. Mais comment faire pour qu'on réponde en travaillant avec les habitants, autrement que par des concours qui permettent justement de faire toute la recherche nécessaire, indépendante des architectes, pour travailler avec les habitants, pour faire avec les bâtiments, non pas pour les démolir, pour faire avec les gens, non pas pour les détruire, mais pour au contraire travailler intelligemment pour faire ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui, utiliser la matière grise au compte des besoins humains. Et voilà donc en ce que nous disons simplement, c'est que nous allons nous adresser également au président de l'ANRU, dans la foulée de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Nous allons lui demander rendez-vous et nous allons lui expliquer pour quelles raisons nous estimons aujourd'hui qu'il faut mettre en avant ce travail à la fois pour ne pas démolir, mais pour travailler intelligemment avec les savoirs, les savoir-faire à travers des concours. Des concours parce que quand on a affaire à des concours, je suis désolé de le dire, c'est extrêmement important, ça veut dire que on rend en quelque sorte cette question publique. Un concours d'architecture, un concours d'urbanisme, ça fait que ces questions d'aménagement prennent un caractère public qu'ils ont réellement, à la fois pour la société, pour la citoyenneté, pour la cité. Et donc, de ce point de vue, nous pensons qu'il y a nécessité aujourd'hui de faire en sorte qu'il y ait cette convergence entre les aspirations des professionnels à faire intelligemment et correctement leur métier et leur travail, et les aspirations des habitants à habiter correctement, à vivre dignement dans leur quartier, à pouvoir poursuivre leur vie, leur existence dans des quartiers dans lesquels ils sont nés, dans lesquels ils ont évolué, etc., etc. Voilà, je voulais simplement rajouter ce petit propos parce que, d'une certaine manière, les réflexions de l'ANRU, dans ce qu'il en est dit, y compris dans la presse, on n'entend plus parler de démolition. Tant mieux, tant mieux. Mais il faut passer des paroles aux actes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que toute cette réflexion qu'on essaye de pousser, d'initier, etc., parce que même si la presse n'est pas là aujourd'hui, dans sa grande majorité, il ne faut pas se dire que nos propos sont sans écho. Nos propos ont un écho. Ils ont un écho partout et il faut l'amplifier, cet écho-là. Et il faut l'amplifier et nous remercions tous les présents, y compris les représentants d'associations, d'architectes, de syndicats qui sont présents aujourd'hui, parce que je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui de faire valoir cette convergence pour répondre aux besoins de la société.
Myriam Co de la SFU et nous a fait une petite vidéo. Elle a travaillé avec Florian qui est à côté de moi sur Almagar, où il y a quelques avancées quand même, on en a un peu discuté, mais légères, mais quelques avancées pour que ça aille dans le bon sens.
Bien sûr, l'articulation et l'expérience acquise par les écoquartiers, mais qui seraient dotés de moyens corrects d'accompagnement. Et puis enfin, des actions ambitieuses sur le pacte social HLM et privé dégradé partout, avec l'appui de l'ANRU et même sans l'ANRU. Nous sommes dans une situation de pénurie de logements et une crise de l'accès au logement. L'urgence consiste à mettre en place un moratoire sur les démolitions en rue pour faire bifurquer la quasi-totalité des projets sur de la réhabilitation. La stigmatisation de fait des quartiers d'habitat social invisibilise la réalité très forte de l'attachement des habitants à leur quartier. La force principale de la régénération urbaine et sociale, ce sont les habitants existants et leur capacité d'agir qu'il faut soutenir. L'urgence sociale se croise avec l'urgence écologique et le gâchis d'argent public dans un contexte de déficit budgétaire. C'est pourquoi nous ne pouvons plus financer démolition ou reconstruction pour aboutir à un jeu à somme nulle en matière de production d'offres supplémentaires. Par ailleurs, notre économie extractiviste pèse aussi sur les limites planétaires et nous avons l'ardente obligation de réemployer ce que nous avons déjà. Nous réclamons d'abord la poursuite du déploiement d'un ANRU 3 qui serait axé sur la réhabilitation pour les quartiers ayant encore besoin d'une profonde remise à niveau en termes aussi de mobilité, d'espace public, d'équipement et de nature en ville. Nous réclamons la refonte du système d'appui au mouvement HLM. Les organismes de logements sociaux ont été privés progressivement d'un grand nombre de moyens et soumis à des obligations inadaptées. Les retraits de sources de financement ont gravement compromis leur capacité propre d'action. Cette situation doit changer et être prise en charge sérieusement. Nous aimerions un état des lieux et une feuille de route dans le temps pour la rénovation HLM de tous les quartiers, qu'il y ait géographie prioritaire ou pas. Nous réclamons une attention nouvelle aussi pour la qualité patrimoniale des ensembles architecturaux et urbanistiques remarquables ou ordinaires du XXe siècle. Un inventaire raisonné de valorisation doit être prévu avant toute intervention. Le moratoire doit immédiatement s'appliquer sur les ensembles signalés par le collectif national contre la démolition, les conseils de l'ordre des architectes, le conseil des Français des urbanistes et les associations de défense du patrimoine telles d'autres communaux le réclament. L'articulation de la politique urbaine gérée par les ministères de l'aménagement et du logement avec le ministère de la culture pour les protections doit être mise en chantier. On peut dire que le ministère de la culture est aux abonnés en sens sur cette question de la protection architecturale. Enfin, nous réclamons que l'ANRU soit doté des moyens de faire respecter les vertus de son propre règlement en matière de coproduction avec les habitants et de transparence quant aux diagnostics qui sous-tendent les décisions publiques. Enfin, les professionnels de l'urbanisme et de l'architecture doivent aussi balayer devant leurs portes des projets impliquant des démolitions absurdes sur des ensembles patrimoniaux parfois de grande qualité, historiques, urbanistiques, architecturales, ou même tout simplement réhabilitables et presque toujours réhabilitables, doivent s'interroger au plan éthique sur l'acceptation de certaines commandes. Le rôle de conseil au maître d'ouvrage est de mise, orienté sur des réhabilitations vertueuses, socialement, écologiquement et économiquement, et notre devoir commun. Bon courage à tous.
Je vais passer la parole à Sylvie Borgsberger, tout présent.
Bonjour à tout le monde. Donc, je suis là au titre de Sauvons la Butte Rouge, donc une cité-jardin du XXe siècle sud de Paris, une cité-jardin de 65 hectares, 3 900 logements, à 99% des PLAI. Aujourd'hui, on se retrouve avec un tiers des logements qui sont presque vides. Et l'objectif de ce projet-là, même s'il y a aujourd'hui un retour un peu arrière de la mairie dans sa communication pour dire qu'on va réhabiliter, bien évidemment, c'est de gentrifier le quartier. Donc en fait, mes propos vont plus porter, au-delà du côté architectural et de la protection du patrimoine, vont plus porter sur les désastres que cela crée au niveau de la population, parce que les gens subissent des relogements forcés, c'est très compliqué pour eux. On dit qu'on leur paye le déménagement, mais ça ne se passe pas aussi simplement que ça, parce qu'on apporte des cartons et débrouillez-vous. Donc quand les personnes sont accompagnées avec des familles, ça peut encore être acceptable. C'est pas toujours le cas. On a souvent aussi des personnes âgées. Donc en fait, toutes ces personnes-là se retrouvent déracinées. En plus, pendant plusieurs années, savent qu'ils vont subir ce déménagement forcé, mais ne savent pas quand. Donc ça veut dire que pendant 5-10 ans, ils vivent dans l'insécurité. Et ça, c'est très, très pesant pour eux. Si vous aviez l'occasion de vous balader dans cette belle cité-jardin, ben vous verriez que la population souffre beaucoup de cette situation de déracinement. On parle réellement d'un déracinement puisqu'on empêche les populations de rester sur place, de garder leurs souvenirs, de partager tout ce qui s'est passé. Donc il y a réellement des opérations qui sont très, très lourdes en termes de conséquences humaines, en fait. Et on sait que, alors on n'a pas de statistiques sur la Butte Rouge, mais on sait que les gens qui sont déménagés forcés, quand ces personnes-là sont fragiles ou âgées, eh ben les décès sont assez fréquents dans les 6 à 8 mois. Donc voilà toutes les conséquences que cela génère, quoi. Voilà. Et donc on est réellement dans un contexte qui est très très dur pour ces habitants-là. Alors après, il y a évidemment l'autre aspect, c'est que pendant toutes ces phases de réhabilitation, démolition, reconstruction, c'est-à-dire plusieurs décennies dans le cas de la Butte Rouge, parce que ça a commencé maintenant depuis près de 10 ans, eh ben on reloge personne. Il n'y a pas de primo-accédant, puisque tous les logements sociaux sont réservés pour reloger les gens sur place. Donc on amplifie l'absence de logements sociaux sur la région parisienne, puisqu'ils existent, mais on ne peut pas les affecter, les logements. On n'a même pas pu, pendant quelques mois, offrir des abris à des réfugiés ukrainiens. Voilà, c'est pour dire que tout est vraiment très verrouillé à ce niveau-là, au niveau des logements sociaux. Ce contexte-là est très peu pris en compte, parce que c'est vrai qu'au-delà du fait qu'il n'y ait pas de co-concertation, tous ces aspects humains qui ne sont quand même pas du tout négligeables ne sont absolument pas traités, pas pris en compte. On pense que le bailleur va faire correctement son travail avec la mousse, ils appellent ça la mousse. Donc on vient enquêter les gens pour connaître leurs désirs. Et prenons un exemple tout bête, mais une personne qui aujourd'hui occupe un 3 pièces, si cette personne est toute seule, on lui propose qu'un 2 pièces. Elle n'a rien demandé, mais on lui proposera systématiquement un 2 pièces. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de violence dans tout ça. Voilà, je voulais parler de ces aspects-là.
Oui, bonjour. Je m'appelle Madani Marzuk, je viens de Nîmes. Je viens de Nîmes, cette ville dans le Gard que vous entendez régulièrement parler d'ailleurs ces dernières années. Moi, j'attribue ça, vous savez, cette violence qu'il y a dans les quartiers Pissevin, Val-de-Gour, Chemin Bas, Mas-de-Meng, je l'attribue à l'ANRU. Depuis l'arrivée de l'ANRU, on a tué le tissu associatif. On a fermé les services publics. On a tué les marchés. On a tué les commerces de proximité. Il n'y a plus rien. On vient de démolir, il y a là, il n'y a même pas 2 mois, deux immeubles de cité universitaire en plein cœur du quartier Pissevin. C'était deux immeubles qui offraient des logements aux étudiants pas chers. Et avoir des étudiants en plein cœur de la cité, c'était de la mixité, c'était de la culture, c'était de la richesse pour nos quartiers. Vous savez, quand on parle de la violence, comme on en parle en ce moment, les réseaux, le trafic et tout ça, d'ailleurs souvent, ce trafic-là, on l'attribue au problème du logement. Ben, on démolit parce qu'il y avait du trafic. Mais en réalité, c'est les habitants qui subissent depuis des années ces politiques qui ne les prennent pas en compte et qui, au contraire, les marginalisent, les discriminent et les met de côté, les chassent de leur quartier. On est en train de démolir, là, ça a commencé cette semaine, une tour qui était la tour la plus splendide du quartier Val-de-Gour, parce que ça a été fait dans les années 60. C'est des F5, c'est des F6. C'était une tour magnifique, c'était le luxe dans cette tour. Eh ben, c'est une tour qu'il aurait fallu réhabiliter, qu'on est en train de démolir, en plein cœur du quartier, alors qu'il y a un taux de demande de logements sociaux très très important. Je vais conclure. Donc oui, une lettre à Macron, il a fallu cette lettre. Maintenant, vu le mouvement national par rapport à cette question du logement, on ne le voit pas encore. Il serait temps que les mouvements, les partis politiques qui aujourd'hui sont en train de préparer leur campagne électorale se mobilisent sur cette question du logement et des quartiers populaires. Il faudrait que ça s'organise dans les villes où le problème du logement, comme Marseille ou Lyon, que ça s'organise et qu'on puisse interpeller de manière forte pour les prochaines municipales et présidentielles la question des quartiers populaires.
Béton armé, soleil en berne, homme de nouvelle caverne, voilà ce que nous devenons. Et pardonnez-moi si j'en tremble, j'avais rêvé de grands ensembles. Ensemble est un si joli nom. Du ciment à l'horizontale, du ciment à la verticale, et puis le vacarme têtu. Ces grands ensembles sont si rudes que je rêve de solitude comme d'un paradis perdu. Dieu qui voulait la vie si belle. Allez un peu voir à Sarcelles. Sarcelles était un nom d'oiseau. Aujourd'hui, l'oiseau est en cage et moi, je trouve ça dommage si vous, vous le voyez de haut. Béton armé, soleil en berne, homme de nouvelle caverne, voilà ce que nous devenons. Si vous n'y mettez pas bon ordre, bientôt la vie, si bonne à mordre, ne méritera plus son nom. Ah, faites-moi changer d'adresse et faites que le vent caresse encore une fois mes mains nues. Le vent, le vrai, pas cette grâce qui nous fait le cœur dégueulasse en ramenant les avenues. J'ai besoin d'air, Dieu me pardonne, de celui que le ciel nous donne en passant par l'odeur des grès. Et si un jour la mort m'empoigne, que ce soit en rase campagne, avec de l'air, mon Dieu, du vrai. Avant de payer l'échéance, je voudrais qu'on donne une chance à mes chansons sans hystérie. Et s'il n'y a plus rien à faire, mettez-moi sous un peu de terre, si vous en trouvez à Paris.
Et nous poursuivons l'écoute de cette conférence de presse organisée par Stop Démolition qui se tenait à la Société française des architectes de Paris. Et en réaction à cette proposition, les quartiers pour demain. Et ce thème de cette conférence de presse était « Et les quartiers aujourd'hui ?» Et cette conférence de presse était organisée par le collectif Stop Démolition.
Bonjour à toutes et tous. Merci à tous d'être venus dans un premier temps. Moi, c'est Vertres Florian. Je suis à la tête d'un collectif d'habitants à Roubaix dans le quartier de l'Almagar qui mène une lutte aujourd'hui depuis 3 ans contre un projet de rénovation urbaine de l'ANRU complètement insensé et qui va à contresens de l'histoire. Tout d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est reparler un peu de l'exemple qui est le nôtre et de notre quartier et de son histoire. Nous, notre quartier a fait preuve d'une expérience unique en France à travers le premier API de France, donc le premier atelier populaire d'urbanisme de France. Et c'est à l'Almagar que le premier quartier de France a été imaginé par et pour ses habitants. Une démarche participative exemplaire et qui a donné des résultats aussi exemplaires parce qu'aujourd'hui, ce quartier est considéré comme l'un des 4 exemples architecturaux français dans le domaine du logement et de l'aménagement urbain, a reçu le premier prix européen d'architecture. Et aujourd'hui, c'est tout ce patrimoine matériel et immatériel que l'ANRU, la municipalité, a pour projet de démolir. Donc, moi, j'étais aux 2 journées de l'ANRU, hier, avant-hier, il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes, mais encore une fois, comme on le dit, entre la parole et les actes, il y a toujours un monde. Et j'ai entendu, comme je le disais, pas mal de choses intéressantes qui se relient très souvent avec nous, ce qu'on met en avant. Dans ces projets urbains, on parle beaucoup d'urbains, mais jamais des sociologues. Où sont les sociologues? Pour intervenir dans ces quartiers, il faut le faire avec minutie, avec amour, et il faut les comprendre, ces quartiers. Aujourd'hui, ces quartiers ne sont pas compris. Les architectes qui y travaillent ont une idéologie personnelle de la vie quotidienne qui n'est pas celle des habitants des quartiers. Nous, dans nos quartiers, notre manière de vivre, notre mode de vie, c'est de prôner l'amour du commun, le vivre ensemble. Ces gens, aujourd'hui, résidentialisent des quartiers comme les nôtres, qui ont été imaginés dans une cohérence de vivre ensemble, avec une ineptie la plus totale. J'ai entendu hier un maire dire « Moi, j'ai donné les clés du camion à mes habitants. » J'ai donné les clés du camion à mes habitants parce qu'en fait, moi, je n'habite pas ce quartier. Je n'habite pas ce quartier. Alors oui, je le connais, mais je n'habite pas, je n'ai pas cette maîtrise d'usage et je ne sais pas forcément ce qu'il faut pour ces habitants à l'avenir pour ce quartier. Et donc, moi, je leur ai donné les clés. Et en réalité, il a dit aussi une chose que nous mettons en avant depuis le début. Oui, il faut de l'urbain dans nos quartiers, il faut intervenir, il faut faire de la rénovation thermique, tout ça. Ce n'est pas un sujet. Mais avant tout, dans ces quartiers, la vraie problématique, elle est sociale. Nous, ce qui a tué l'Almagar dans les années 90, c'est la misère sociale sur la misère sociale. Ce n'est pas l'architecture, ce n'est pas l'urbanisme, c'est la misère sociale sur la misère sociale. Donc, comme le disait ce maire, et il a totalement raison pour le coup, faisons une transformation sociale avant d'imaginer une transformation urbaine. Et c'est quelque chose de super intéressant. Et j'aimerais continuer parce que Il y a pas mal de choses qui se disent. Et très souvent, comme je le disais tout à l'heure, ces réunions de participation qui sont imaginées, c'est un semblant d'écoute pour respecter l'article 1.3 de la réglementation de l'ANRU, mais on est sur du semblant d'écoute. Faut mettre fin à ce semblant d'écoute. En réalité, ce qu'il faut mettre en place aujourd'hui, c'est outiller les habitants, laisser parler leur créativité et leur maîtrise d'usage, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on aimerait mettre en avant, c'est ça. Et vous savez, comme je vous le disais tout à l'heure, l'Almagar aujourd'hui fait partie de l'un des quatre exemples architecturaux français dans le domaine du logement et de l'aménagement urbain, parce qu'on a laissé parler la créativité des habitants. Aujourd'hui, c'est tout ce patrimoine qu'on souhaite balayer d'un revers de main pour un projet complètement spéculatif qui est de créer une dent creuse et des réserves foncières, ce qui n'a complètement aucun sens. Et je vais synthétiser parce que sinon je pourrais en parler des heures. Anne-Claire Mialot, qui est la directrice générale de l'ANRU, pour ceux qui ne le savent pas, a identifié il y a un an 11 quartiers problématiques. Aujourd'hui, elle en identifie 20, une vingtaine. Comme quoi, en un an, le chiffrage a doublé. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Mais chiche, Madame Mialot, il y avait un quartier identifié où il y a des problématiques. Chiche. Mettons les choses à plat, discutons, échangeons. Déjà sur ces 20 premiers quartiers. Imaginons de ce qui pourrait être fait. Et ça serait déjà mettre un premier pied dans la porte et montrer le bon sens qui est le leur dans leur fameuse journée de l'ANRU. Et j'en terminerai là-dessus parce que c'est aussi la lettre à M. Macron qu'on a remis avec le collectif national. M. Macron disait sur les quartiers de demain, chacun doit avoir dans son environnement quotidien une part de beauté. La relation aux beautés ne devrait pas être l'exclusivité de quelques-uns. Il a poursuivi. Il faut valoriser l'existant et cesser de démolir. Révéler les qualités intrinsèques du bâti, construire la ville sur la ville, favoriser la réhabilitation plutôt que la destruction, qui est un traumatisme pour les habitants, une aberration écologique. Il faut associer pleinement les habitants au projet, leur donner une voix dès le début, les intégrer au jury décisionnaire. Chiche, Monsieur le Président. C'est tout ce qu'on demande, nous. Chiche, Monsieur le Président. Voilà. Je vous remercie.
Donc Alain Goulon, représentant de la Confédération nationale du logement, la CNL. Je vais prendre un exemple concret pour vous expliquer pourquoi la CNL est contre les démolitions. On a travaillé sur une résidence. Une résidence, le bailleur ne fait aucune concertation, même à peine une information aux habitants en leur disant « Nous allons détruire la moitié des tours qui existent chez vous ». Et nous, on arrive, appelés par les habitants, et on constate que les tours qui sont détruites sont exactement identiques aux tours qui vont être rénovées et réhabilitées juste à côté. C'est-à-dire qu'on ne comprend même pas le pourquoi de la démolition d'une partie du patrimoine, alors qu'il est identique au patrimoine qui va être réhabilité. Et donc on fait toute une action, toute une mobilisation des locataires en ce sens, et on constate que les locataires, on ne leur a même pas demandé leur avis. Même pas de concertation, même pas d'information, rien. Qu'est-ce qu'on fait? On décide, avec l'appui de la mairie, on fait une votation citoyenne. Avec huissier, hein, avec l'urne, une vraie urne, avec un vrai isoloir, et on fait une votation citoyenne en demandant clairement aux locataires, aux habitants, est-ce que vous voulez qu'on détruise vos logements? Ce qui nous a le plus étonné, et là je rejoins un peu l'amour qui a été dit par Florian, c'est pas tant le résultat, qui était à 93 ou à 94% contre la démolition, c'est que les gens qui venaient, c'est des gens à qui on n'avait jamais demandé leur avis. C'est des gens des quartiers populaires, comme tu as dit. Des gens à qui on ne demande pas leur avis, même que ce soit aux élections municipales, que aux élections régionales, à n'importe quelle élection. Ils n'ont jamais voté de leur vie. Il y a des gens qui venaient en pleurs en disant « c'est la première fois que je viens mettre un bulletin dans l'urne ». C'est ça qui nous a stupéfaits. C'est ça qui nous a dit « mais effectivement, il y a un problème ». Il y a un problème par rapport à des quartiers qui sont réhabilités, des quartiers qui sont détruits, des tours qui sont détruites. Il y a un problème à ce niveau-là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit « bah non, les démolitions, il y a peut-être autre chose à faire derrière ». Et la concertation. Bien sûr, et je rejoins ce que Florian a dit, la concertation, c'est un grand mot. Nous, on n'est pas pour la concertation, parce que la concertation, les bailleurs estiment que c'est de l'information. Non, on est pour la co-construction. On est pour construire ensemble, vivre ensemble. Et bien évident que, et je rejoins exactement ce qui a été dit par le maire de Miramas hier, et ce que Florian a dit, c'est que même nous, même moi, j'habite pas dans ces logements-là. C'est moi, je leur dis aux locataires, aux habitants, c'est vous qui vivez là, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire. Comment vous voulez vivre? De quelle façon? Avec quel moyen? Avec quel jardin? Pas de jardin? Une route? Pas une route? Une ruelle? Un jardin d'enfants? Que sais-je? La peinture bleue? Parce que souvent, les bailleurs demandent ça. Donc, voilà le problème. C'est-à-dire que nous, on est contre, mais je dis même pas moratoire, je dis même contre les démolitions de logements, parce qu'on considère qu'effectivement, on détruit du bien social, du bien qui a été fabriqué avec de l'argent public, en grande partie, et qu'on le détruit, en plus, pour ne pas reconstruire du logement social tel qu'il a été détruit.
C'est-à-dire qu'il faut rappeler que 70% de la population peut prétendre à un logement social. Or, dans les reconstructions, on ne construit que 20 ou 30% de logements réellement sociaux, puisqu'on dit qu'on veut faire de la mixité sociale, et donc on construit aussi de l'accession et du logement intermédiaire. Même si je n'aime pas le terme de mixité sociale, parce que la mixité, ça veut dire que les gens sont mélangés entre eux, font des choses ensemble. Mais ça ne construit pas de la mixité. Ce type d'opération crée de la diversité. On met les classes sociales ensemble, bien entendu. Mais après, qu'est-ce qu'elles font ensemble? Si c'est pour se dire bonjour le matin et bonsoir le soir, il n'y a pas de mixité. Il n'y a aucun mélange, il n'y a aucun vivre ensemble. Il n'y a aucune construction sociale derrière. Et donc, c'est ce qui manque à l'ANRU. Et d'ailleurs, Patrick Vergriet, le nouveau président de l'ANRU, l'a dit hier, mais l'avait dit aussi lors d'un conseil d'administration de l'ANRU. J'ai pas l'honneur, mais l'avantage d'y participer. Il avait dit, jusqu'à maintenant, l'ANRU, c'était du bâti, il manque énormément de social. Il manque le social derrière tout ça. Ben chiche, je rejoins, chiche, mettons du social derrière tout ça, mettons du social, les quartiers populaires. Ça a été dit hier par un sociologue, j'ai adoré ses propos. Il a dit, mais les quartiers sociaux, c'est là que se fait la République. C'est là que se fait la fraternité, c'est là que se fait la solidarité, c'est là qu'il y a une plus grande liberté des choses, et c'est là qu'on enregistre la plus grande pauvreté, les plus grandes instabilités. On en fait des ghettos de pauvres. Et c'est pas moi. Enfin, le mot pour moi est vulgaire parce qu'on en fait des ghettos de pauvres. Mais je rappelle que s'il y a des ghettos de pauvres, c'est qu'il y a des ghettos de riches à côté. C'est-à-dire qu'il y a des villes qui vont décider elles de ne pas construire de logement social parce qu'elles estiment que le logement social c'est les problèmes, c'est toute la misère du monde, etc. On en connaît des villes comme ça, des villes qui devraient être hors la loi et qui doivent construire du logement social. Donc, bien entendu que nous sommes contre les démolitions. Je rejoins, bien entendu, il y avait 11, maintenant, c'est 20 projets qui ont été répertoriés par l'ANRU comme problématique. Chiche, effectivement, de mettre à plat et de dire on fait au moins un minimum un moratoire là-dessus, et puis construisons ensemble. Il y a un rapport qui a été remis, effectivement, en projet de faire un ANRU 3, un futur ANRU 3, à laquelle la CNL aspire grandement. C'est nécessaire de faire de la rénovation, de la réhabilitation, bien entendu. Mais dans ce rapport, effectivement, il y a une prise de conscience et qu'il y a un manque de concertation et que les démolitions ne devraient pas être effectivement un dogme. On peut espérer effectivement que si une loi ou si quelque chose apparaît plus tard, comme en rue 3, les choses seront prises en compte. Mais en tout cas, on sera tous là pour défendre, bien entendu, et le moratoire et la co-construction.
Je vais passer la parole à Hugo Franck du syndicat de l'architecture qui voulait nous dire un petit mot.
Oui, le syndicat de l'architecture défend la réhabilitation depuis quelques mois, quelques années. Vous le savez ou pas, je ne sais pas, on porte nous des enjeux de réhabilitation. On essaye de les porter jusqu'à les porter dans la loi sur l'architecture pour faire valoir le fait. Alors non pas qu'on veut pas opposer la construction neuve à la réhabilitation, c'est pas ça. On dit que quand c'est possible de réhabiliter, on réhabilite et on fait tout pour savoir si c'est possible de réhabiliter. Voilà, le sujet, il est là. Moi, j'aimerais quand même parler de la butte rouge, 30 secondes, et des stratégies à adopter. On s'est battu, on était à vos côtés quand même plusieurs fois sur ce sujet de la butte rouge. On a écrit au président de la République, on a écrit au ministre S de la Culture, on a écrit au service de l'architecture, au ministère de la Culture, toutes les lettres qu'on a envoyées ou qu'on a même envoyées par voie de presse sont restées lettres mortes. Et Rachida Dati a balayé d'un revers de main nos demandes qui étaient d'inscrire la butte rouge définitivement pour obliger la réhabilitation et pour obliger qu'il y ait un projet concerté sur ce patrimoine. Et quand on voit ce que l'État, les ministères font, c'est symptomatique, c'est ça qui me pose problème, c'est quelle stratégie adopter pour se faire entendre, parce que la loi du marché est plus forte que la logique que nous défendons tous, c'est-à-dire comment faire pour que les habitants puissent vivre dignement. Enfin, c'est la base de toute démocratie, ça. Comment on fait pour agrémenter la vie des gens, c'est ça notre boulot. Nous, le débat, c'est quoi? C'est de porter la réhabilitation, mais pas que la réhabilitation à l'échelle du bâtiment. On parle beaucoup de logement, là. Comment on fait pour sortir de la crise du logement? Enfin, c'est bien. Enfin, oui, on réhabilite, mais il faut qu'il y ait plusieurs politiques qui soient mises en œuvre de manière transversale. Comment réhabiliter des logements vacants? Mais comment comment on aide les propriétaires qui poussent la vacance à sortir leur logement de la vacance, comment on fait retourner tous ces logements vacants et ils sont en nombre. Comment l'État aide les propriétaires à sortir ces logements de la vacance, comment nous, architectes, on peut rénover ces logements, comment on rénove et comment on réhabilite des centres-bourgs qui sont désertés, comment on réhabilite des entrées de ville qui sont sous-utilisées, comment on réhabilite des quartiers, comment on crée de la mixité. La mixité, elle n'est pas simplement à l'échelle d'un immeuble, elle est à l'échelle du quartier, comment on réfléchit. Voilà. Comment cette histoire de transformation du cadre de vie des Français, elle devient un peu plus large pour sortir à la fois de la crise du logement et pouvoir, pouvoir loger 300 000, je ne sais plus combien, quel chiffre vous avez, vous, 300 000 personnes à la rue, 350. Bon, il faut qu'on arrive à se voir plus régulièrement, je pense, pour porter d'une seule voix certaines choses, parce que c'est là où je voulais en venir. Les urbanistes ne peuvent pas porter leurs projets de leur côté, le syndicat de l'architecture les leurs, vous les vôtres, enfin, il faudrait qu'on arrive à avoir un peu plus de projets en commun pour pouvoir porter d'une seule voix une ambition forte pour arrêter de démolir quand on peut reconstruire et pour trouver une issue à cette crise du logement.
En fait, ce que tu viens de dire, c'est que ça rejoint ce que Philippe disait tout à l'heure, c'est que, et au sein de la frugalité heureuse dont je fais partie, c'est qu'aujourd'hui, il y a un patrimoine bâti sous-exploité, non employé, conséquent. Partout où vous pouvez vous promener, vous verrez qu'il y a beaucoup d'immeubles inoccupés, inutilisés, et qu'il y a lieu, en premier lieu, de valoriser tout ce bâti existant. Il y en a même ici qui, depuis des années, prônent la réquisition pour pouvoir loger les gens dignement, notamment ces 350 000 personnes qui sont à la rue, voire d'autres, parce qu'aujourd'hui, cette loi qui est inscrite depuis 1945 sur la réquisition des logements, elle existe, elle n'a jamais été véritablement mobilisée. Alors qu'il y a des urgences sociales de plus en plus criantes. Et on se rejoint complètement. Et en fait, aujourd'hui, il y a un courant qui fait partie du House Europe en partie, qui considère qu'il n'y a plus grand-chose à construire et qu'il y a véritablement énormément d'immeubles qui sont complètement vacants et qu'il faut réactiver pour traiter toutes ces questions-là. Du coup, je vais en profiter et passer la parole à Étienne Recht du DAL.
Je rejoins tout à fait ce que vous dites. J'introduis par là parce que effectivement, il y a un véritable problème de logements vacants, de très nombreux logements vacants, et c'est insupportable en tout premier lieu pour les militants du droit au logement que nous sommes d'avoir des logements vacants en haut et des personnes sans logement en bas, quoi. Et donc, oui, les raisons pour lesquelles ces logements restent vacants, il faut absolument les combattre. Bon, voilà. Et ça, c'est le leitmotiv du DAL depuis toujours. Mais il y en a un autre, notamment, et c'est la question de la défense des logements sociaux. Et le DAL, depuis qu'il existe, dénonce les démolitions de logements sociaux. Depuis qu'il existe. C'est-à-dire que les démolitions ont même commencé avant l'ANRU. Hein, et lorsque c'était Marie-Noëlle Lienemann, la gauche, etc., qui disaient « oui, il faut, Roland Castro, embellir les quartiers, les désenclaver, créer de la mixité sociale, parce que ce sont des ghettos, parce que, voilà, et se sont engouffrés dans les veines de la théorie du ghetto », eh bien le DAL, déjà à cette époque, disait « mais en fait, non, on oublie une chose de ces quartiers, c'est qu'on oublie que ces quartiers, ils ont permis d'éradiquer les bidonvilles en leur temps. C'est des quartiers de logement qui ont permis cela ». Et c'est ça qu'on est en train de démolir. Et nous, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Et on le dit à l'appui de fait de la démolition de ces quartiers HLM, de ces cités HLM, de ces quartiers d'habitat populaire. D'habitat populaire. Eh bien, les bidonvilles sont en train de renaître. Parce que c'est de ça dont on parle. Hein. Très concrètement, c'est quoi? En 20 ans, dans rue, c'est 300 000 HLM démolis. Autant de sorties de parc, si on y ajoute... Les ventes et les requalifications. Voilà, donc c'est le mot politiquement correct pour dire on enlève des logements sociaux pour en faire des logements pour les plus riches. Voilà. Donc, voilà, 300 000 logements démolis. Et qu'est-ce que c'est que ces logements? Alors, ils ont des super caractéristiques architecturales, et j'apprends à mieux les connaître grâce à mes camarades architectes. Oui, mais ils ont deux autres caractéristiques fondamentales. La première, c'est qu'ils sont très bien situés. Ils sont situés en zone tendue, proche des bassins d'emploi, proche des services. Et la deuxième, c'est qu'ils sont pas chers. Moins de 5 euros du mètre carré en moyenne pour les logements démolis. Et c'est là que ça devient complètement aberrant, et c'est pour ça que le DAL s'est toujours mobilisé. Il n'y a pas et il n'y a jamais eu un seul HLM en trop tant qu'il y aura un mal logé en attente de HLM. Tant qu'il y aura un mal logé en attente de HLM. Et là, on n'est plus à un mal logé en attente de HLM. 2 millions de demandes de logement social en attente. Dans chaque demande de logement social en attente, il y a entre 2 et 3 personnes. On parle de millions de personnes. À la simple échelle de l'Île-de-France, c'est 2 millions mal logés. Voilà. C'est 800 000 demandes de logement social qui restent en attente depuis X années. Et c'est des drames familiaux. Et voilà, c'est des gens qui s'entassent. Parce qu'une demande de logement social, c'est quoi ? Et ben, c'est des gens qui, derrière, sont hébergés chez des tiers, chez d'autres familles. Donc ça impacte énormément de monde, cette question du mal logement et de l'indignité. Et c'est là-dessus que j'aimerais conclure. Finalement, ces logements, oui, ils sont importants pour les habitants. Mais c'est avant tout un bien commun. Moi, je suis locataire HLM. Là, je vois que je suis très content de voir dans la salle, il y a des militants du DAL, comme Jacques, vraiment, qui défend les tourailleaux, seul parfois, contre tous, contre la mairie de Nanterre, contre tout le monde, qui défend les tourailleaux, qui ne sont même pas démolies toutes. Hein. Certaines sont démolies, d'autres sont requalifiées. Mais pourquoi ? Ce n'est pas pour lui. Il défend les tourailleaux parce qu'il sait qu'historiquement, ces tours, elles ont permis d'éradiquer les bidonvilles de Nanterre, parce que Jacques, il s'en souvient des bidonvilles de Nanterre. Et que je pense qu'il n'y en a plus grand monde qui s'en souvient. Il y a Fanny qui a Coulouillé, quartier de demain, qui pourra peut-être nous en dire un mot, et évidemment Diabé au fond, là, que je remercie beaucoup d'être venu et qui se bat avec nous dans les Yvelines pour empêcher les démolitions un peu partout dans le département qui est saccagé en ce moment. Dernier mot, donc, sur 300 000 démolitions, 200 000 ont été faits dans des villes de gauche. Dans des villes tenues par la gauche, d'accord ? Et donc là, voilà, moi ce que je dis pour terminer là-dessus, c'est que bon, s'il y a 20 ans, à l'époque, on pouvait y croire, parce que les matières premières étaient pas chères, parce qu'il y avait moins de demandes de logement social, parce que les classes moyennes accédaient à la propriété, etc., etc., why not ? On pouvait croire à ces promesses de la mixité sociale, etc. 20 ans plus tard, c'est l'heure du bilan, le nombre de demandeurs de logements sociaux, il a explosé, le nombre des conséquences sociales, sanitaires sont en train d'exploser, et pour autant, on continue de démolir, on continue d'être sur la même logique de défendre les mêmes types d'arguments. Voilà. Donc nous, ce qu'on dit simplement, c'est écoutez, ça suffit la folie, ça suffit les bêtises, arrêtez les démolitions, défendez les HLM. Stop les démolitions, vive les HLM.
Merci Étienne. Juste, nous, on avait fait une petite étude au bureau, juste en prenant les valeurs de l'ANRU 1, je crois, 165 000 démolitions. C'est l'équivalent, en habitants, de près de 300 000 habitants, c'est l'équivalent d'avoir fait disparaître, grosso modo, l'habitat d'une ville comme Nice. C'est pour ça qu'on est là aussi, c'est que localement, ça paraît rien du tout, mais là, globalement, quand on additionne les chiffres, toi, tu as des chiffres encore plus important, c'est des valeurs dont on n'a plus du tout les moyens, quoi. Mais alors absolument plus du tout les moyens. Je vais passer la parole à Catherine de la maladrerie.
Alors, donc, je vais parler de la maladrerie. C'est 900 logements sociaux réalisés par René Gayousté à côté du fort d'Aubervilliers. Mais auparavant, je vais faire une remarque justement sur les démolitions. Parce que nous sommes à côté de la maladrerie, à côté d'un quartier qui s'appelle Émile Dubois, des années 50, de 800 logements sociaux, qui vont être, donc 400 logements vont être démolis pour être remplacés par du logement en accession à la propriété. Et il faut savoir qu'à Aubervilliers, on va perdre 600 logements sociaux, parce qu'on a aussi 200 logements à la porte de la Villette, qui fait l'objet d'une ANRU aussi, d'un quartier qui fait l'objet d'une ANRU. Et donc, à Aubervilliers, on a 8000 demandeurs de logements et on perd déjà 600 logements avec l'ANRU. Alors, il faut aussi savoir que Aubervilliers est en quartier prioritaire de la ville. Donc, la ville annonce toujours que les habitants qui veulent être logés à Aubervilliers le seront, mais c'est impossible. Donc, la ville ment par rapport à ces relogements. Alors, je voudrais dire aussi que on a répondu, on a un collectif à la maladrerie qui est assez actif, on a d'habitants et d'associations, on a répondu au rapport à la convention de l'ANRU, et alors ça, je vais répéter parce qu'il y en a certains qui l'ont déjà entendu, que dans la convention, dans le chapitre des relogements, Il est indiqué que l'ANRU a bien conscience que les habitants qui vont être évacués, déménagés, plus loin, peuvent sentir un sentiment de relégation. Vous voyez ce que ça veut dire, relégation. C'est mis dans un endroit plus loin, dans une situation inférieure. Et en plus, ce travail s'accompagne d'un travail sur l'histoire des quartiers. Donc, ils font parler les habitants qui vont déménager pour leur tourner un peu plus le couteau dans la plaie. Hein, voilà. Alors donc, on leur a répondu dans la convention que c'était vraiment une façon très cynique d'aborder ce problème des relogements. Nous, notre lutte sur la maladrerie, elle est patrimoniale, bien qu'il y a tout le volet réhabilitation des logements, des façades, remise aux normes à l'intérieur des logements, qui est présent dans le programme. Mais comme on a la CNL qui s'occupe un peu plus de ces problèmes-là, nous, le collectif, se base sur la défense du patrimoine de la maladrerie. Alors justement, dans cet aspect-là, on a considéré que même que tout quartier soumis à l'ANRU devrait développer une partie patrimoniale de son quartier. Par exemple, dans les années 60, enfin ça a été un peu évoqué ici, dans les années 60... Il y a une grande qualité par rapport à la taille des logements, par rapport à ce qu'on fait maintenant, par rapport... les logements sont très éclairés, entourés de verdure, et donc chaque quartier devrait développer cette... Alors, je reviens sur la maladrerie. Donc, la maladrerie, c'est une vieille histoire avec l'ANRU depuis 2008, où un premier projet avait été présenté de résidentialisation et de démolition. Et donc, les habitants se sont soulevés, le maire a abandonné tout de suite le projet. Il a dit d'accord, je laisse tomber l'ANRU. Au cours de l'ANRU 2, ils reviennent à la charge et ils nous représentent le même projet avec en plus vente à la découpe de 60 logements. Et ça n'a pas tenu parce qu'avec les 600 logements qu'on perdait, on n'a pas eu à se battre trop longtemps. Donc ce projet a disparu. Mais par contre, on a mis le paquet sur pas de résidentialisation et pas de démolition. Et on a gagné en 2024. On s'est battu de 21 à 24 pendant 4 ans. Et on a gagné. On n'aura pas de résidentialisation parce que la ville a racheté les passages couverts qui appartenaient à l'OPH pour qu'ils deviennent domaine public. Donc on n'aura plus de grilles qui seront posées. Enfin, il faut rester vigilant. Et on n'aura pas de démolition de pavillons qui risquait de faire entrer la voiture dans la maladrerie qui est un quartier...
Pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Grégoire, chaque semaine, sur Nicolas Garrig, à Montpellier, Canastu, à Toulouse. Et bien évidemment, Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.